Les deux orphelines, première partie, chapitre 13. La personne qui avait mis obstacle à la réalisation du projet de la fleur était cette même jeune femme que nous avons vue sur le point de se précipiter dans le fleuve. C'était Marianne Vautier qui voulait, pour donner suite à sa résolution d'en finir avec la vie, attendre qu'il n'y eût plus sur la place personne qui pût essayer de se porter à son secours. À voir ses allures indécises, il y avait lieu de supposer qu'elle était revenue brusquement sur sa détermination. En effet, elle marchait d'un pas hâtif et saccadé, se dirigeant vers le cabaret où venaient d'entrer Jacques Frochard et la mendiante. Le fils de la Frochard avait bien affirmé à sa mère que Marianne viendrait. Il avait dit à celle-ci « Je veux que tu viennes !» Et la malheureuse venait. Mais au moment de franchir la porte, elle s'arrêta brusquement. Elle accourait, l'âme affolée, vers cet homme qu'elle méprisait et qu'elle adorait à la fois, vers ce Jacques qui l'avait plongée dans le vice, qui la traitait en esclave et qu'elle aimait éperdument. Elle avait bien compris que cet amour était une honte, que sa passion était un détestable égarement des sens, et 100 fois elle avait tenté de réagir contre ce fatal entraînement. Mais, hélas, cette lutte était vaine. La malheureuse retombait bientôt dans sa honte. Il avait suffi, pour que cette transformation s'opérât, que le rude garnement, aux désirs toujours inassouvis, aux caresses brutales, aux violences sans frein, regarda sa victime en plein dans les yeux. Cette fois, cependant, elle semblait résister au funeste entraînement. Au moment de franchir le seuil du cabaret, elle s'était subitement arrêtée. Et c'est avec un geste d'horreur et de dégoût qu'elle s'écria. « Non, je n'entrerai pas là. C'est trop d'être venue jusqu'à cette porte. Je voulais m'en éloigner et, malgré moi, je me sentais attirée par sa volonté, à lui. Mais c'est la mienne qui sera la plus forte. Je ne veux plus le revoir. Non, non, je ne le reverrai pas. » Et elle gagna rapidement le milieu de la rue, mais hélas, pour s'arrêter encore. 2 sentiments contraires luttaient dans son cœur. La raison qui lui disait « Sauve-toi, malheureuse !» et l'amour qui lui criait « Reste !» Mais la lutte ne fut pas longue. Les chants redoublants de violence lui rendirent la force et l'énergie qui avaient été si près de l'abandonner. « Chante, misérable » dit-elle en se tournant vers ce repaire d'ivrogne et de débauché. « Enivre-toi, oublie celle dont tu as brisé le cœur, empoisonné la vie, et qui pour t'échapper n'a plus qu'une ressource, mourir. Puisse mon dernier cri de désespoir arriver jusqu'à toi comme une malédiction. » Les deux orphelines étaient trop préoccupées pour qu'Henriette fît attention à cette malheureuse qui, se dirigeant vers le cabaret, était passée à quelques pas d'elle. Louise, au surplus, n'avait cessé d'interroger sa compagne. « Je n'aperçois pas Monsieur Martin, » dit Henriette, « mais il y a là, tout près de nous, une jeune femme dont les allures me paraissent étranges et qui fait peine à voir tant elle est pâle, tant elle a l'air malheureux. » Henriette désignait Marianne qui, épuisée, à bout de force, venait de tomber sur une borne à quelques pas du banc où Louise avait repris sa place. « Ah, mon Dieu !» fit Henriette. « On dirait qu'elle se trouve mal. » « Il faudrait la secourir. Parle-lui, Henriette. Va, ma sœur, va !» Henriette se rapprocha de Marianne, mais elle hésitait. Il est toujours très embarrassant d'offrir ses services à une personne que l'on ne connaît pas et qui ne demande rien. Elle se décida pourtant. « Madame, vous paraissez bien fatiguée, bien souffrante. » Pas de réponse. « Peut-être auriez-vous besoin d'être aidée, secourue ?» reprit la jeune fille d'un ton attendri. « Je n'ai besoin de rien, » répondit Marianne d'une façon si brève et si rude que Louise, qui l'avait entendue, se leva vivement pour se rapprocher d'Henriette. « Il y a dans cette voix quelque chose de sinistre et de fatal, » dit-elle à sa sœur. « La misère a aussi sa fierté, » répondit tout bas Henriette. « La misère, » reprit Louise, « oui, peut-être, mais il s'agit ici d'autre chose, d'un chagrin profond, d'une souffrance morale. Elle pleure, n'est-ce pas ?» « Oui, oui, de grosses larmes tombent sur ses mains. Va, sœur, essaie encore de savoir. »« Madame, » dit Henriette, se rapprochant avec Louise, « Madame, regardez-nous et ayez confiance. Nous ne sommes pas riches, mais si nous pouvions vous venir en aide... »« Je vous l'ai dit déjà, » répondit Marianne sans les regarder. « Je n'ai besoin de rien, parce qu'il y a des douleurs dont rien ne console, des tortures que rien ne soulage, parce que, enfin... » Elle s'était arrêtée. Ce fut Louise qui acheva sa pensée. « Parce que vous voulez mourir. » « Qui vous a dit cela ?» demanda Marianne en relevant la tête. « Je l'ai compris, je l'ai senti en vous écoutant. Nous autres, aveugles, qu'aucun objet extérieur ne distrait, nous écoutons avec notre âme, avec notre cœur, et le mien entendait les douloureux battements du vôtre. « Dites-nous vos chagrins, madame, » ajouta Henriette. « Peut-être parviendrions-nous à les adoucir. » Marianne regardait les deux sœurs avec une surprise facile à comprendre. Il est si rare de rencontrer des âmes qui devinent nos souffrances et qui cherchent à les soulager avant même qu'on le leur demande. La grâce simple et naïve de ces deux jeunes filles, leur voix douce et tendre, l'avait profondément émue. Elle avait presque honte d'elle-même en présence de ces créatures dont tout révélait la candeur, l'honnêteté. Et pourtant, elle ne put résister au désir qu'elle éprouvait de leur prendre les mains et de les presser dans les siennes. « Ah, vous êtes bonnes !» leur dit-elle. Vous ne m'avez jamais vue et vous avez pitié de moi. » Puis elle ajouta en baissant la tête. « Hélas, mieux vaudrait que vous ne m'eussiez jamais rencontrée. » Elle fit un mouvement pour s'éloigner précipitamment. Henriette la retint. Mais la malheureuse s'arracha des mains de la jeune fille en s'écriant avec désespoir. « Ah, laissez-moi partir, ne cherchez pas à me détourner de la pensée fatale qui m'entraîne là, là !» Et d'un geste témoignant d'une énergique résolution, elle montrait la rivière. Henriette l'avait saisie par le bras. « Non, non, restez !» lui dit-elle. « Restez, au nom du ciel !» Marianne résistait aux supplications des jeunes filles et faisait de violents efforts pour se dégager. « Réfléchissez à ce que vous allez faire, je vous en conjure !» dit Henriette en adressant un regard effaré à la malheureuse. « Le suicide est un crime !»« Que Dieu ne pardonne pas !» ajouta l'aveugle en pressant la main qu'elle tenait prisonnière dans les siennes. Marianne eut un geste de désespoir. « Vous ne savez pas, s'écria-t-elle, que je suis une misérable, indigne de pitié. Vous ne savez pas que les soldats du guet me poursuivent, qu'ils peuvent retrouver ma trace, qu'ils m'arrêteront. Vous arrêtez ? Oui, ils m'arrêteront, vous dis-je, car je n'aurai plus ni la force, ni la volonté de leur échapper, comme je l'ai fait une première fois. Mais pourquoi vous poursuit-on ? Demanda Henriette avec anxiété. Quelle faute avez-vous donc commise ? Dit à son tour l'aveugle. Oh, je n'oserais jamais vous le dire. À vous, si bonne, à vous qui ignorez comment on peut être assez faible, assez lâche, pour succomber aussi ignominieusement. Puis, baissant la tête, Marianne murmura. J'ai volé. Henriette et Louise jetèrent un cri d'effroi. Oui, continua la jeune femme en s'animant. C'est la main d'une voleuse que vous pressez dans votre main. Ah, ne vous l'avais-je pas dit? Que vous vous intéressiez à une créature indigne ? J'aurais dû sans hésiter vous avouer toute la vérité. J'aurais dû vous crier « Laissez-moi mourir !» pour échapper à la prison qui m'attend, à la domination du misérable qui m'a forcé de commettre un crime odieux. Oui, bien odieux, car si vous saviez... » Marianne parlait maintenant d'une voix saccadée avec une émotion fébrile. Maintenant qu'elle avait commencé sa douloureuse confession, il lui tardait de l'achever jusqu'au bout, et elle s'écria donc avec force. « Oui, j'ai volé, j'ai dépouillé un pauvre petit être sans père ni mère, un pauvre petit enfant dont j'aurais dû être l'appui, le soutien. J'ai commis ce crime odieux pour un misérable que je méprise et que j'aime. « Tenez, » poursuivit-elle en étendant le bras pour indiquer la fenêtre du cabaret. « Il est là, avec ses compagnons de débauche. Entendez-vous ces chants ignobles, ces éclats de rire, ces voix avinées ? Il est là, cet homme qui m'a poussé au vol. Il traite ses camarades des débauchés comme lui. Il lui fallait de l'argent pour cette fête, et cet argent, c'est moi qui l'ai volé. Comprenez-vous maintenant combien j'avais raison de vouloir mourir ? » Henriette et Louise écoutaient, silencieuses et le cœur serré. Elles ne trouvaient plus un mot qui pût être une consolation pour la malheureuse qui se confessait à elle. Marianne continua avec amertume. Lorsque je suis loin de lui, la raison me revient. Mon cœur se révolte et mon amour se change en haine. Mais hélas, dès qu'il se montre à moi, la haine disparaît. Il me parle et je tremble. Il me regarde et je redeviens son esclave. Tenez, ce que je vais vous dire est horrible. Vous savez déjà que pour lui j'ai volé. Eh bien, je crois que je tuerais s'il me disait « je le veux ». Instinctivement, les deux jeunes filles s'étaient éloignées de cette créature qui avouait qu'elle assassinerait si l'homme qui s'était emparé d'elle, au point d'annihiler chez elle tous les sentiments honnêtes, le lui ordonnait. Elles demeurèrent silencieuses, épouvantées, n'osant plus maintenant retenir cette malheureuse qui leur criait d'une voix déchirante. « Vous voyez bien qu'il vaut mieux que je meure !» Et prise de honte, elle cacha son visage dans ses mains. Louise et Henriette étaient consternées. Marianne étouffait ses sanglots. Elle se leva et montra le fleuve avec un profond désespoir. « Vous voyez bien qu'il vaut mieux que je meure !» L'aveugle avait fait un pas vers la jeune femme. « Madame, lui dit-elle d'un ton calme, on ne rachète pas une faute en commettant un crime. Mieux vaut subir une peine de quelques mois, fit à son tour Henriette, qu'un châtiment éternel. Quand vous sortirez de prison, ajouta Louise, vous serez quitte envers les hommes, et quand vous vous serez repenti, vous serez quitte envers Dieu. Dieu, vous croyez donc qu'il y en a un, vous? Si, nous le croyons. On m'a toujours dit à moi que Dieu n'existait pas. Et voilà où vous conduisez ceux qui vous ont dit cela, répondit Henriette en montrant la rivière. Marianne avait de nouveau baissé la tête comme une coupable. Il faut nous croire, reprit Louise, et vous rachèterez votre passé. Oui, ajouta Henriette, l'avenir s'ouvrira devant vous, plus calme et plus heureux. L'avenir? Que puis-je en attendre? Où trouverai-je de l'ouvrage? Et comment vivrai-je jusque-là? Louise parla tout bas à sa sœur. Elle s'était comprise. Henriette prit dans sa bourse quelques pièces d'argent et les glissa dans la main de Marianne, qui se mit à trembler comme si un frisson lui eût traversé le cœur. L'aumône? Dit-elle d'une voix défaillante. Oh non, non, gardez, gardez votre argent! Henriette insista pour le lui faire accepter. Il l'aiderait, assurait-elle, à attendre des jours plus heureux. « Ne nous refusez pas, fit Louise, ce serait nous faire un grand chagrin. »« Ah, vous aviez raison, s'écria la jeune femme, il faut bien qu'il y ait un Dieu, puisque voilà deux de ses anges qui viennent me secourir. » Et la pauvre Marianne couvrait de baisers et de larmes les mains des deux sœurs, pour le moins aussi émues qu'elles. Maintenant, elle se sentait forte et courageuse. Elle quitterait Paris, elle irait se cacher au fond de quelque ville de province, où elle travaillerait et gagnerait honnêtement sa vie. Marianne paraissait bien décidée à ne plus retomber dans les mêmes faiblesses. Henriette put en juger en la voyant se lever et se tenir la face tournée vers la croisée du cabaret, comme pour lancer, par son attitude résolue, un défi à l'homme qui l'avait précipité aussi bas. Et l'orpheline eut un mot d'encouragement dont le sens n'échappa pas à la jeune femme, car celle-ci s'écria avec un geste menaçant. « Quant à lui, jamais je ne le reverrai. Jamais, je vous le jure. » Puis, saisissant les mains de ses deux bienfaitrices, « Soyez bénis, » ajouta-t-elle. « Vous, dont les paroles ont été pour moi si douces, le cœur si compatissant, oui, soyez bénis, vous qui m'avez sauvée. » Elle fit quelques pas en s'éloignant, puis, se tournant une dernière fois, elle envoya de la main des baisers à Henriette et à Louise en leur disant encore de loin. « Adieu, adieu !» Elle était bien en possession d'elle-même en ce moment. La raison lui était revenue, et avec elle l'espérance. Oui, l'espérance! Madeleine se sentait, après sa confession, comme régénérée. Il semblait que sa voix eût été entendue là-haut, que sa prière eût été écoutée, et son repentir accepté. Lorsqu'elle fut arrivée à la porte du cabaret, où l'orgie continuait, elle eut un geste de mépris pour le misérable qu'il avait perdu. Puis, cette dernière manifestation accomplie, elle se mit à courir. Mais elle s'arrêta brusquement. Une voix bien connue lui criait « Marianne ! Hé, Marianne !» Cette voix qu'il avait clouée sur place, c'était celle de Jacques Frochard. De l'endroit où elles étaient, Henriette et Louise avaient entendu Jacques appeler la jeune femme. « Ah, mon Dieu !» dit Louise, se serrant contre Henriette. « C'est lui qui l'appelle !» Et elle s'arrête. « Hélas !» ajouta Henriette avec un soupir. Il y eut un instant de silence qui dut être pour Marianne un véritable supplice. Étonné de ne pas la voir répondre plus vite à son appel, Jacques s'était rapproché de quelques pas. « Hé, Marianne, est-ce que t'es devenue sourde? Où courais-tu donc comme ça? Pourquoi que t'es pas montée là-haut boire une goutte avec les amis? Hein? Sourde et muette? À ça répondras-tu quand je te parle? Où allais-tu? Marianne avait pendant tout ce temps regardé son brutal interlocuteur bien en face. Elle voulait ainsi se donner le courage de répliquer avec énergie. Aussi, répondit-elle d'une voix ferme, que Jacques n'était plus habitué à entendre chez elle depuis longtemps. « Je me sauvais de toi !»« Allons donc, c'est une farce que tu me fais !»« Te sauver de moi !»« De ton Jacques !» Et il essaya cette fascination qui lui réussissait toujours si bien. « Oui, de toi. Je ne veux plus te voir !» reprit la jeune femme en soutenant ce regard. « Ah, elle est bonne !» fit Jacques en éclatant de rire. « Tu ne veux plus. Alors pourquoi que tu t'es arrêté quand je t'appelais ? Pourquoi que tu te rapproches maintenant que je te fais signe ? Et pourquoi que ta main tremble quand je la prends dans la mienne ?»« Eh bien non !» répondit Marianne. « Je résisterai. Je ne t'obéirai plus. Jamais plus. C'est fini. J'ai honte de la vie que je mène et de l'infamie dans laquelle je me suis plongée à cause de toi. » Et s'enhardissant, elle ajouta. « Tu n'es qu'un lâche !» Des remords, des reproches. Remets tout ça dans ton sac, ma fille, et suis-moi! S'exclama Frochard en saisissant vigoureusement le bras de Marianne. Il voulut l'entraîner, mais elle se recula brusquement. Non, te dis-je, je ne te suivrai pas! Jacques était littéralement stupéfait. Il ne s'expliquait pas comment avait pu s'opérer le changement qu'il constatait chez cette femme, dont il avait fait son esclave, sa chose. Cependant, il persista à vouloir l'entraîner. Tu vas me suivre! Reprit-il avec une colère croissante. « Je le veux. Entends-tu ? » ?»« Et moi, je... » Jacques l'interrompit violemment. « Je le veux, Marion. » Il lui serrait le bras avec force. Mais Marianne ne poussa pas un cri. En ce moment, le misérable eût pu la tuer sans obtenir une soumission qu'elle était décidée à ne pas faire. Henriette avait suivi toute cette scène et l'avait racontée à Louise. Aussi, les deux sœurs attendaient-elles avec anxiété ce qu'allait faire la jeune femme. Henriette avait remarqué que Marianne Vautier tournait, en parlant, ses regards vers elle et vers Louise, comme pour retremper son courage chancelant et leur demander la force de sortir victorieuse de la redoutable épreuve qu'elle subissait. Cette force, la jeune femme dut la sentir renaître, car elle répondit avec énergie. « Tu le veux, Jacques ? Et moi, je ne le veux pas. C'est fini, t'ai-je dit. Je ne veux plus être ta victime, ta complice. Je ne t'obéirai plus. » Frochard eut un balancement des hanches, comme un homme qui commence à ne plus être sûr du succès et qui perd peu à peu ses avantages. « Et comment que tu t'y prendras ? Attends, tu vas le savoir !» Des soldats du guet venaient d'entrer dans la rue. Marianne courut à eux et s'adressant à leur chef. « Monsieur, lui dit-elle, arrêtez-moi, je suis une voleuse !»«
Vous ? Dit le sergent.
« Oui, c'est moi que vos soldats cherchaient il y a une heure dans la cité. » J'ai pu leur échapper, mais maintenant je me repens et je me livre.
Est-ce qu'elle devient folle ? Se demandait Jacques en se mettant prudemment à l'écart.
Votre nom ? Dit l'officier en regardant sa feuille. Marianne Vautier. Je vous le répète, je suis la femme que vous attendiez à la porte de l'atelier.
Eh bien, puisque vous avouez, le bureau de police est à deux pas. Suivez-nous.
Marianne avait pu s'approcher rapidement des deux sœurs. Elle leur glissa ces mots à voix basse. L'expiation commence. Demandez au ciel de me donner le courage de l'achever. Puis, se tournant vers Jacques, elle s'écria. « Je te le disais bien que je t'échapperais !» Et elle vint se placer entre les soldats et le sergent, qui se remirent en marche. Jacques avait fait quelques pas de retraite, lorsqu'il vit qu'on emmenait décidément Marianne. « En prison ! Mais quelle bête » murmura-t-il à mi-voix, en rentrant au cabaret, où ses camarades l'appelaient à grands cris. Mais il n'avait pas, nous le savons, l'habitude d'être longtemps rêveur. Après un premier moment de surprise, il haussa finalement les épaules, comme un homme qui en prend son parti. Ce fut là toute la somme de regrets qu'il accorda à la pauvre femme qui avait eu le malheur de le rencontrer sur sa route. Des cris de joie accueillirent le retour de Jacques dans le cabaret où s'achevait le repas. La Frochard, en ébriété, était hideuse à voir. Elle avait, pendant toute l'orgie, tenu tête aux compagnons de débauche de son fils, faisant chorus avec eux lorsqu'ils entonnaient quelques chansons que tous reprenaient en chœur en frappant du couteau contre les gobelets et les assiettes en faïence.